Ce discours de Jésus, qui nous est proposé pour la méditation, peut se partager en deux parties. La partie où il décrit le rôle du berger, qui va du verset 1 à 6, où Jésus fait la différence entre le bon et le mauvais berger, et la partie où il parle de la porte, du verset 7 à 10, où Jésus dévoile et confirme sa divinité en affirmant qu'il est, lui, la porte. Ce qu'il faut noter dans ce texte, c'est qu'il reflète une certaine violence, car Jésus ne mâche pas ses mots. Nous sommes bien loin de ces images doucereuses, un peu mièvres et coutumières de l'imagerie pastorale. Lorsqu'il dit « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands », cette manière de parler ne laisse aucun doute sur sa position et sur ses intentions. Il attaque, il accuse. Ce texte est donc très polémique. Mais pour comprendre les raisons qui poussent Jésus à hausser le ton, nous devons examiner le chapitre précédent qui relate l'épisode de l'homme aveugle de naissance, exclu de la synagogue par les pharisiens. Jésus donc les accuse et les qualifie de mauvais bergers, car ils ont chassé une brebis du troupeau, de son troupeau. C'est ce que nous apprenons au verset 34 du chapitre 9. Ils le chassèrent. Car les Juifs avaient décidé que tous ceux qui reconnaîtraient Jésus pour Christ seraient exclus de la synagogue. Alors il nous est dit au chapitre 9 que Jésus fit de la boue avec sa salive et après l'avoir mis sur les yeux de l'aveugle, lui demanda d'aller se laver au réservoir de Siloé. Celui-ci y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Quelle joie pour cet homme. Mais tout le monde était étonné et certains même avaient de la difficulté à croire la véracité des faits. Et il a fallu le témoignage des parents pour que les pharisiens admettent que l'enfant, enfin que l'aveugle, l'était de naissance. Et donc que cette guérison avait bien eu lieu, qu'elle était réelle. Alors les pharisiens changent de tactique, en disant que celui qui guérit l'aveugle ne pouvait pas être un homme de Dieu, puisqu'il transgressait le sabbat. Ils considéraient donc Jésus comme un pécheur. Leur façon de s'exprimer était très subtile, car ils ne disaient pas « il guérit le jour du sabbat ». Non, il ne respecte pas le jour du sabbat, ce qui bien sûr est très différent, et met en évidence d'ailleurs la position malveillante qu'ils ont à l'égard de Jésus. Sur quoi l'aveugle guéri contredit les pharisiens avec une réponse admirable lorsqu'il dit « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Mais voilà une déclaration que les pharisiens ne voulaient surtout pas entendre. C'est pourquoi ils le chassèrent en lui disant « Tu es né tout entier dans le péché » et tu nous enseignes? Et c'est à cause de cette exclusion brutale et injuste que Jésus les attaque frontalement en leur montrant leur aveuglement. Ce qu'on peut relever dans ce passage, c'est l'attitude de l'aveugle, qui a montré bien du courage et de la fermeté en résistant aux pharisiens, qui cherchaient un motif pour condamner Christ. Eh bien, cet homme a préféré être chassé de la synagogue plutôt que de trahir la vérité. Joli. l'attitude de Jésus dans cet entretien avec l'aveugle est admirable aussi, pleine de ménagement, de respect, de douceur envers cet homme. Lorsqu'il lui pose la question « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Cet homme lui répond « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Alors Jésus lui répond « Mais tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » Alors que Jésus aurait pu dire bah, « C'est moi qui t'ai guéri, c'est moi qui t'ai dit d'aller te laver à la piscine de Siloé. » Non, rien de tout ça. Il a passé sous silence. Mais ce que ce récit nous apprend, c'est que Jésus ne guérit pas l'aveugle malgré lui. Celui-ci collabore. Quand Jésus lui ordonne d'aller, il va sans un mot au réservoir de Siloé, se lave et revient voyant clair. Donc, il participe au miracle de sa guérison. Il doit en être de même pour nous. Nous devons répondre à la grâce en l'acceptant par la foi. Ensuite vient l'obéissance. La foi seule en Jésus, comme sauveur, ne suffit pas. Il faut absolument que suive l'obéissance à Jésus en tant que Seigneur. Jésus est notre sauveur, mais aussi notre Seigneur. Et il le dit clairement. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Il dit aussi « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc, l'obéissance est la preuve de la présence d'une foi véritable et solide. Revenons au texte. Jésus nous explique que les faux bergers, qu'il qualifie de brigands et de voleurs, sont les chefs religieux du peuple, plus intéressés à tondre les brebis qu'à les guider, les nourrir ou les protéger. Et nous avons vu au début qu'ils n'hésitent même pas à les chasser et à exclure les brebis faibles. Lorsque Jésus s'exprime en disant « Tous ceux qui sont venus avant moi », il se réfère aux critiques des prophètes de l'Ancien Testament sur les mauvais bergers. Voici par exemple ce que disait Jérémie au chapitre 23. « Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions. » Ézéchiel aussi, au chapitre 34, qui décrivait au nom de l'Éternel l'attitude des mauvais bergers, je cite, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, ramener celles qui s'égaraient, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie des bêtes des champs. » Mais voilà aussi ce qu'il dit plus loin. « Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. » Bien entendu, les paroles sévères qu'on a entendues tout à l'heure de Jésus ne s'adressaient pas aux prophètes, hein, parce qu'il les a toujours valorisés, mais à tous les faux bergers du passé et du présent qui prétendaient avoir autorité divine pour enseigner et conduire les autres, promettant liberté au peuple, alors qu'il lui inflige souffrance et esclavage. Et pour ne parler que du passé récent, on a eu les nôtres, les Führers, les Dutschs, les petits pères des peuples, les grands timoniers, le Temple solaire et tant d'autres. qui s'instituait conducteur du peuple et suscitait autour d'eux un culte de personnalité. Pour les plus anciens, par exemple, quand il s'agit du grand timonier, on se souvient, la propagande, elle disait « il apporte la lumière aux nations, ouvre les yeux des aveugles, fait marcher les boiteux, entendre les sourds ». C'était à peu près le langage du prophète Ésaïe, mais lui, quand il s'adressait au Messie d'Israël. Examinons maintenant ce que c'est qu'un bon berger. D'abord, il connaît chaque brebis par son nom. Il appelle ses brebis et ses brebis connaissent sa voix. Il est dit que les brebis entendent sa voix et le suivent. Maintenant, dans Ézéchiel 34, lisons la promesse de Dieu. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui était blessée. Et je fortifierai celle qui était malade. Ah, c'est des merveilleuses promesses. Alors les brebis, se sachant personnellement aimées du bon berger, le suivent et l'écoutent. Et ne suivent personne d'autre. Nous savons que le bon berger, lui, passe par la porte. Il n'a pas besoin d'escalader les murs. Mais en plus, voilà que Jésus nous affirme qu'il est lui-même cette porte, la seule porte, l'unique porte. Et il l'affirme. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il a dit « Je suis ». Jésus utilise souvent cette affirmation pour se révéler à nous et confirmer avec force sa provenance divine. Quand il dit par exemple « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep. Je suis le Messie. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est le même je suis que Moïse a entendu du milieu du buisson ardent. Jésus affirme ainsi son éternité et son identité avec le Dieu de l'Ancien Testament. Et il poursuit en disant quelque chose de très important. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il sera sauvé. C'est la seule raison de sa venue. Il est venu pour nous sauver. C'est d'ailleurs ce qu'il explique à Nicodème lorsqu'il lui dit, un verset que tout le monde connaît aussi, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Il est venu pour sauver. » Et Jésus a déclaré aussi, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, question importante pour nous, sommes-nous sauvés? Avons-nous cette assurance, cette certitude d'être sauvés? Eh bien, la réponse parfois laisse perplexe. Souvent on entend « qui peut le savoir ?» ou bien « qui peut en être sûr ?» Il y en a qui répondent aussi, pas la moindre idée. Il y en a qui disent, personne ne le sait. Il y en a qui disent, je fais ce que je peux, Dieu fera le reste. Et puis, il y en a qui disent aussi, je fais tout mon possible, et Dieu pardonnera. Je m'arrête sur cette dernière réponse. Car penser et dire « je ferai tout mon possible » est une erreur, même très grave. Parce que cela indique que la personne qui croit que c'est sa bonne conduite qui va la sauver, et c'est pas vrai. Donc toutes ces réponses dubitatives prouvent qu'il n'y a aucune certitude. Le doute règne en maître. Pourtant, il est bien écrit « je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est bien marqué, il sera sauvé. C'est pas marqué, il sera peut-être sauvé, ou il a des chances d'être sauvé, ou il est possible d'être sauvé. Non, non, non. C'est marqué, il sera sauvé. C'est une affirmation. C'est une certitude qui permet de répondre « Oui, je suis sauvé par le sang de Christ, parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour moi. » Ce n'est pas nous, c'est Christ qui nous sauve. Il est obligé de nous sauver parce que nous sommes perdus. C'est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il est écrit aussi, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Donc il nous sauve totalement. Nous devons simplement reconnaître notre péché et croire en lui, en son œuvre parfaite. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et cette espérance nous donne la certitude d'être sauvés parce qu'elle est fondée sur les paroles du Seigneur. Et selon ce qui est écrit, il est impossible que Dieu mente. Après avoir acquis la certitude d'être sauvé, c'est le moment effectivement de faire son possible, de son mieux. À la différence que maintenant, c'est avec l'idée parce que nous sommes sauvés et non pas pour être sauvés. S'il y a une personne qui ne fait pas encore partie du troupeau du berger, qu'elle sache que le bon berger et tout le troupeau l'attendent et la supplient de s'approcher de lui sans tarder, avec confiance et assurance. Tout le monde est appelé. Il n'y a pas d'exclu. Il suffit de croire. Gloire à Dieu. Amen.